L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 5h18, ce matin du 8 mai 1927. L'oiseau blanc décolle de l'aéroport du Bourget. C'est un magnifique biplan, gavé de quelques 3800 litres de carburant. 14,60 m d'envergure, motorisé par un Lorraine 12 cylindres de 450 chevaux. À son bord, deux pilotes hors pair. François Colly, ancien chef d'escadrille, chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre en 14-18. Et Charles Ningesser, lui aussi décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur, mais aussi as de la Première Guerre mondiale avec 43 victoires. Pour eux, cap sur les États-Unis. 18 ans à peine après la traversée héroïque de la Manche par Blériot, il s'agit ni plus ni moins de la première tentative de traversée aérienne de l'océan Atlantique Nord sans escale entre Paris et New York. Une folie pour l'époque. Aujourd'hui, je vous raconte l'épopée d'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale. En cette année 1927, depuis le 7 janvier, il est possible de téléphoner de Londres à New York. Une révolution technologique immense. Le premier service de téléphonie transatlantique par onde radio entre Londres et New York est ouvert au public. Une année marquée donc par une avancée majeure pour la technologie et un recul net pour le droit des femmes, puisque le pape Pie XI qualifie d'immoral le fait de donner aux femmes des cours d'éducation physique. La même année, le prix Nobel de la paix est attribué au Français Ferdinand Buisson, fondateur et président de la Ligue des droits de l'homme. Une ligue qui a vu le jour suite à l'affaire Dreyfus, quelques années plus tôt. Pendant ces années-là, les aviateurs sont bien désœuvrés. À la sortie de la guerre, tout est bon pour voler et se faire remarquer. Comme ce jour de 1919, le dimanche 19 janvier 1919. Le temps est glacial. Un épais brouillard empêche un pilote de décoller d'ici les Moulineaux. Ce pilote, c'est Jules Védrine. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son exploit certainement. Au début de l'après-midi, le soleil émerge enfin et le brouillard se dissipe. Védrine décolle. Et son avion apparaît devant les yeux, ébahi, de nombreux Parisiens. Oui, il survole Paris. Mais son objectif est de réaliser un coup de pub magistral pour les Galeries Lafayette. Soudain, le moteur se coupe. Les roues touchent le toit des galeries. L'avion s'arrête à quelques centimètres seulement au-dessus de la balustrade. Il s'en est fallu de peu. Avec un brin d'humour, l'as nuance son exploit. Rien de plus simple. On arrive, on regarde, on se pose. Plus tard, chacun rentrera chez soi de la même façon. Il faut éviter de se tromper d'immeuble, c'est tout. Aujourd'hui encore, une stèle sur les terrasses des Galeries Lafayette commémore son incroyable prouesse. Cet exploit démontre avec panache que les aviateurs tentent par tous les moyens de convaincre que leurs coucous peuvent faire plus que bombarder, tuer, combattre ou assurer des missions de reconnaissance. Alors, outre ces cascades spectaculaires, on établit de nouveaux records d'altitude, de vitesse et surtout de distance. On risque sa vie pour voler plus vite, plus loin, plus haut. Après le temps des pionniers, voici venu le temps des conquêtes. Et puis pour pimenter la chose, on offre des prix pour récompenser les exploits. Comme l'homme d'affaires américain d'origine française, Raymond Ortegue, qui décide d'offrir 25 000 $ au premier aviateur qui effectuera un vol transatlantique sans escale entre Paris et New York ou entre New York et Paris. Et ils ont 5 ans pour réaliser l'exploit. Avec ce prix, et sans le savoir, Ortegue va jouer un rôle déterminant dans l'accélération des événements. Pourtant, les mois passent, puis les années. personne n'a relevé le défi. Oh, pas que ça n'intéresse pas les aviateurs, non, non. Ça représente plus de 350 000 euros aujourd'hui. Et cette somme en fait rêver plus d'un. Mais la technologie pour un tel voyage n'est pas encore au point. Pas encore assez avancée. Ce serait l'échec assuré. L'échec assuré et la mort. Alors Orteg, déçu, renouvelle son offre en 1924. Un an passe. Toujours rien. Et ce n'est qu'en 1925 que le Français François Colly se dit « Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ?» Et de fait, les progrès techniques effectués au cours de ces dernières années pourraient bien lui permettre de réaliser ce rêve de traversée un peu fou. Enfin ! Mais cette traversée, il ne la fera pas seul. Alors, qui prendra avec lui ? Qui ? Paul Tarascon. Voilà l'homme qu'il lui faut à ses côtés lors de cette traversée. Un as ayant remporté 12 victoires en 14-18. Mais malheureusement, un accident à la fin de l'année 1926 le laisse gravement brûlé. Aucune chance qu'il se remette avant qu'un autre ou d'autres pilotes ne tentent la traversée. À la clé, il y a la gloire et la fortune. Et cette perspective va attirer à François Colly un autre pilote, Charles Ningesser, l'un des aviateurs français les plus expérimentés, as aux 43 victoires. « Dis donc, Colly, il n'a pas l'air très en forme, votre copain Tarascon. Si ça vous dit, je peux mettre mon expérience à votre service. » Là, Colly n'en croit pas ses oreilles. Ningesser, une légende vivante et qui plus est, un navigateur expérimenté comme lui. C'est un peu la superstar des pilotes, comme en témoigne cette anecdote. Lors de la Première Guerre mondiale, piégé par un avion ennemi plus performant, et alors qu'il s'était posé en signe de capitulation, prêt à mourir sous les balles adverses, il avait vu son adversaire se contenter de le survoler en lui adressant un signe admiratif de la main. L'Allemand avait reconnu son blason de guerre. Un cœur noir, enrobant une tête de mort, un cercueil, deux tibias entrecroisés et deux chandeliers. Cet insigne figura sur le fuselage de l'oiseau blanc. Ningesser, auto-surnommé le « puzzle humain », avait notamment eu en 1916 un terrible accident lors duquel il s'était retrouvé avec le manche d'un avion encastré dans le palais. Il avait eu les jambes brisées, la mâchoire déboîtée et la boîte crânienne enfoncée. Pour couronner le tout, il arborait une large balafre au visage en souvenir d'une balle allemande. Charmeur, charismatique, Ningesser avait même joué son propre rôle dans un film de Sky Raider. Et c'est vrai. Sa vie était un film, en effet. Pas besoin de forcer le trait. Même pas celui de son principal défaut, à savoir un piètre talent de gestionnaire qui avait contribué à le mettre plus d'une fois sur la paille. Il avait mené une vie princière, acquérant un hôtel particulier près des Champs-Élysées, fondant une école de pilotage acrobatique à Orly, roulant dans une Rolls-Royce offerte par le prince de Galles et filant aux États-Unis pour devenir la figure de show aérien réputée lors desquelles il reproduisait ses propres combats. Mais son étoile avait fini par s'étioler vu sa gestion désastreuse. Et puis l'argent, de toute façon, n'était pas son moteur. Pour preuve, il ne s'était même pas inscrit au prix Orteg. Et c'est donc avec lui, Ningesser, que Colly va effectuer ce vol. Il a une confiance aveugle en l'homme au vu de son impressionnant palmarès. C'est d'ailleurs Ningesser qui prendra les commandes du biplan. Colly Ningesser, le borgne et le balafré. Colly avait laissé son œil droit lors d'un crash en 1918, crevé par des fragments d'hélice. Deux personnages, deux gueules cassées, deux âmes torturées aussi, puisqu'ils étaient l'un et l'autre en plein marasme conjugal au moment de s'élancer à corps perdu dans leur projet révolutionnaire. Peut-être partait-il aussi un peu pour oublier tout ça. Colly, plus posé, plus calme, plus discret, pouvait lui aussi afficher quelques faits de guerre impressionnants. Non, moins que Ningesser, certes, mais tout de même. On lui devait, entre autres, d'avoir joué un rôle important dans plusieurs victoires décisives, notamment la destruction de la célèbre Grosse Bertha, l'effrayante pièce reine de l'artillerie allemande. Ensuite, il avait accumulé une solide expérience dans le vol d'endurance, réussissant notamment en duo avec Henri Roger la double traversée de la Méditerranée, puis le record du monde de distance entre Villacoublay dans les Yvelines et Kénitra au Maroc, 1750 km. Déjà les prémices d'un exploit. Colli le débonnaire, la posture bedonnante, la moustache frétillante, la caricature du faucheur de marguerite et sa gouaille si délicieusement provençale auraient fait un personnage parfait pour Pagnol. Mais ne vous y trompez pas. Sous ses airs débonnaires se cachait un guerrier, un homme méticuleux, ingénieux. Pour se préparer à ses traversées, il se privait volontairement de sommeil pendant deux nuits. Il savait, lui, Colli, que ce défi allait lui demander d'aller puiser dans ses ressources, qu'il allait devoir se dépasser comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Avec Colli, ça n'était pas toujours simple de travailler, tant son professionnalisme, son perfectionnisme était présent à chaque seconde de la préparation du défi. Ningesser, le flambeur, et Colli, le travailleur, le blanc et le noir, le yin et le yang, tellement différents et pourtant tellement complémentaires. La préparation de cet exploit est surmédiatisée. Les journaux suivent pas à pas le début de cette aventure unique. Et cette surmédiatisation, additionnée au palmarès et à l'aura des deux hommes, leur attire le soutien du constructeur aéronautique Pierre Levasseur et du motoriste Lorraine Dietrich. Pierre Levasseur qui, pendant l'entre-deux-guerres, a produit une quinzaine de types d'appareils pour la marine nationale française. Ces avions avaient la particularité d'avoir un fuselage dit marin. Ils avaient la possibilité de larguer leur train d'atterrissage et d'amerrir grâce à une coque profilée. Attention, ce n'étaient pas des hydravions puisqu'ils ne pouvaient pas redécoller. Une fois sur l'eau, l'avion était perdu, mais les pilotes sains et saufs. Pouvoir amerrir en cas de problème, ça intéresse notre duo. En cas de panne moteur, et si la mer n'est pas trop grosse, ils pourront toujours s'en sortir vivants. Quant au train d'atterrissage, nous en reparlerons. La motorisation est confiée à la société Lorraine Dietrich. C'était une entreprise française. Elle construisait des automobiles, du matériel roulant ferroviaire, du matériel lourd et des moteurs d'avion. Il est à noter qu'en 1925, la société a participé aux 24 heures de Spa-Francorchamps et que la paire Gérard de Courcelles-André Rossignol a obtenu une très belle deuxième place. Deux sociétés réputées et de qualité soutiendront donc deux pilotes chevronnés. Tout se présente sous les meilleurs auspices. Ningesser étudiait depuis pas mal de temps déjà la possibilité d'une telle traversée. En fait, dès maintenant, la question n'est pas de savoir si on peut réaliser cet exploit, mais quand on va réaliser cet exploit. Alors il faut être les premiers. Et les deux hommes ne perdent pas de temps. Ils commencent la préparation de leur aventure. Les Américains ont un avantage sur les Européens. Et non des moindres. Le vent. Oui. Le vent souffle majoritairement sur Terre d'ouest en est. Un vol Paris-New York peut prendre jusqu'à une heure de plus qu'un vol New York-Paris. Un pilote m'a un jour confié qu'il avait réalisé la traversée des États-Unis vers l'Europe presque aussi vite qu'un Concorde. Un peu plus de 4 heures grâce au vent qui soufflait fortement en altitude. Et dans le bon sens. En d'autres termes, il faudra moins de temps pour un Américain pour réaliser la traversée que pour un Européen. Alors, pourquoi une traversée d'est en ouest, me direz-vous? Pourquoi rajouter cette problématique à une équation déjà bien complexe? Eh bien, pour une raison toute simple, qui tient en deux mots. Le chauvinisme. Oui, oui, vous avez bien entendu, le chauvinisme. Colli et Ningesser ne veulent pas relier New York à Paris, mais Paris à New York, tout simplement. Et quitte à prendre plus de risques et de devoir attendre des vents plus favorables et plus rares. Tant pis, la France d'abord. Sacré Français. Et puis Ningesser a déclaré partir de là-bas, de New York. Cela aurait été un peu comme de nous rendre visite à nous-mêmes. La décision est donc prise et est irrévocable. Le départ se fera de l'aéroport du Bourget. Cette décision témoigne aussi de la concurrence folle que l'Europe et les États-Unis se livrent dans la course à la traversée, mais aussi dans la course à la technologie de pointe. Et cette bataille, il faut la gagner à tout prix, quitte à prendre tous les risques. Comme quelques mois avant eux, en septembre 1926, le Vosgien René Fonck, l'as des as de la Première Guerre mondiale avec ses 75 victoires en combat aérien, 27 citations sur sa croix de guerre en 14-18. Et tenez-vous bien, il est le soldat français le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Faisant équipe avec l'ingénieur Igor Sikorsky, un nom de famille qui vous dit peut-être quelque chose, il prend les commandes d'un bimoteur pour lequel il a demandé bon nombre d'améliorations, dont la principale est l'ajout d'un moteur, tout simplement. Les entraînements se succèdent et l'avion a clairement beaucoup, beaucoup de peine à s'arracher du sol malgré ses trois moteurs qui rugissent à plein régime. L'équipage fait malgré tout péniblement décoller le trimoteur le 21 septembre 1926, en route pour Paris. Mais un mauvais largage du train annexe, un terrain inégal, une charge exceptionnelle de carburant et l'avion s'écrase au décollage, tuant deux membres de l'équipage, l'opérateur radio et le mécanicien. Sa tentative n'a donc pas franchi la piste de l'aérodrome de Roosevelt, mais a fait deux victimes. Et puis deux de plus, avec Stanton Wooster et Noel Davis, deux Américains qui perdront la vie lors d'un vol d'essai aux commandes d'un prototype le 26 avril 1927. On dira de cette course à la traversée que c'est plus une course à la mort. Mais il en faut plus pour décourager nos pilotes.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. 25 000 dollars ont été promis au premier aviateur qui effectuera un vol transatlantique sans escale entre Paris et New York. Personne ne s'y est jamais risqué, jusqu'à ce que deux pilotes hors pair, François Colly et Charles Nungesser, décident de relever le défi. La préparation minutieuse d'un vol est d'une importance capitale. Et tous les pilotes vous le diront. Plus encore, quand il s'agit de préparer un vol qui marquera l'histoire et qui n'a jamais été réalisé. Alors on pense, on imagine, on subodore, on réfléchit. Mais si on parvient à quitter le plancher des vaches, que va-t-il se passer une fois là-haut? Que va-t-il se passer une fois au-dessus de la grande flaque, comme les pilotes appellent l'océan Atlantique? Personne ne le sait, puisque personne ne l'a jamais fait. Et puis en cas de problème, au-dessus de l'eau, impossible de rejoindre la terre ferme dans 95% du temps du voyage. Les côtes sont trop loin, beaucoup trop loin. En cas de problème, c'est l'amérissage, puisque le fuselage de l'appareil a été conçu pour ça. Enfin, si la mer n'est pas trop forte. Et une fois sorti de la carcasse, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pour qu'un navire passe par là et vous repère. En fait, en cas de problème, c'est la mort, pratiquement assurée. C'est le prix de l'aventure. C'est le 15 février 1927 que le futur oiseau blanc est mis en chantier. Mais au fait, pourquoi l'oiseau blanc? La raison est à l'image du pilote, haut en couleur. Un jour, en marge des spectacles auxquels Nungesser participait aux États-Unis, il avait été amené à voler dans le Wyoming, au-dessus d'une réserve indienne de la tribu des Comanches, dont le chef, d'abord méfiant, avait fini par le prendre en sympathie. Son nom? The White Bird, l'oiseau blanc, tout simplement. Peut-être pensait-il que son nom allait leur porter chance. Mais revenons à l'avion. C'est un biplan, un PL-8, dérivé d'un PL-4. Et le PL-4 est un avion qui est utilisé dans la jeune aéronavale et est destiné à servir sur le premier porte-avions français, le Béarn, alors en cours d'achèvement. C'est une magnifique machine. 14,60 m d'envergure, 9,75 m de long, 3,75 m de haut. Le diamètre de l'hélice, 3,95 m. Poids vide, avec eau et accessoires, 1905 kg. Poids de l'équipage, 150 kg. Un peu plus de 4000 litres de carburant. Poids de l'huile embarquée pour la traversée, 80 kg. Le moteur, à l'époque, était très gourmand en huile. Poids des vivres et des appareils de sauvetage, 30 kg, soit au total près de 5 tonnes au décollage. 4963 kg exactement, c'est beaucoup. Heureusement, il est équipé d'un puissant moteur Loren Dietrich de 450 chevaux. 12 cylindres montés en W Et ce moteur va être testé, bien sûr, pour s'assurer qu'il fonctionnera sans problème pendant l'intégralité du vol. Et pour vérifier ce paramètre, il va tourner pendant 40 heures à l'usine Levasseur de Chartres, sous les yeux des ingénieurs. 40 heures sur un banc d'essai et le test démontrera sa fiabilité sans faille. Il équipera bon nombre d'appareils en plus de l'oiseau blanc. C'est un premier succès pour nos aventuriers. L'avion sera fiable, ce qui n'était pas toujours le cas en 1927. En plus de sa fiabilité, ce moteur va pouvoir emmener l'équipage en vol à plus de 200 km/h. Et puis, et c'est une particularité des avions Levasseur, le biplan est doté d'un fuselage marinisé, rappelons-le, c'est-à-dire profilé et étanche, afin de pouvoir amerrir en eau calme. Et pour le symbole, Ningesser et Colly ont d'ailleurs prévu de se poser sur l'eau à la fin de leur trajet, en face de la Statue de la Liberté. Enfin, Ningesser et Colly suppriment le poste avant du fuselage pour le remplacer par des réservoirs d'essence, ce dont ils vont avoir cruellement besoin pendant leur épopée. Cet avion est fait de bois et de toile. On est bien loin à l'époque des matériaux composites. Cela dit, aujourd'hui encore, des avions de voltige de compétition sont encore construits en bois. Une fois les ailes mises en croix avec la dérive et le fuselage, on monte tous les éléments et on teste la machine. Rôle attribué à des pilotes d'essai, qui paieront d'ailleurs un lourd tribut à l'histoire de l'aviation et à ses avancées technologiques. En effet, bon nombre d'entre eux perdront la vie dans un engin volant. Une fois les tests des premiers vols réalisés, on termine par apposer les marquages tricolores bleu, blanc, rouge sur les ailes et la dérive de l'appareil. Ningesser fait peindre de chaque côté du fuselage son insigne personnel, rappelez-vous. Une tête de mort au tibia entrecroisé, surmontée par un cercueil entouré de deux chandeliers, le tout dessiné dans un cœur noir. Rien de très réjouissant, mais néanmoins efficace. On le retient encore aujourd'hui, ce marquage qui lui a sauvé la vie pendant la Première Guerre mondiale. Le 19 avril 1927, l'oiseau blanc prend son premier envol depuis la base aérienne de Villacoublay. Désormais, il n'y a plus de temps à perdre. Les préparatifs de la conquête de l'Atlantique se sont intensifiés. Mais nos aviateurs se concentrent sur l'objectif et rien ni personne ne les empêchera de prendre leur envol. Alors on teste et on reteste encore. La résistance des matériaux, le moteur, les gouvernes, tout y passe. François Colly conçoit son plan de vol en suivant la route orthodromique, c'est-à-dire la plus courte. Elle doit les amener à naviguer au nord-ouest en survolant la Manche. Ensuite, ils mettront le cap au sud-ouest de l'Angleterre, puis l'Irlande et enfin l'océan Atlantique, à perte de vue. Puis on se dirigera vers le sud-ouest, vers Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et enfin, la côte est des États-Unis. François Colly s'est spécialisé dans la navigation céleste au cours de ses années passées à bord de navires de commerce et de ses vols en Méditerranée. Ce qui veut dire que la nuit, Colly va diriger l'avion à l'aide d'un sextant. Le sextant, inventé par l'astronome britannique John Hadley en 1731. Rendez-vous compte, nous sommes en 1927 et les aviateurs pour se repérer de nuit utilisent un outil vieux de presque 200 ans. Rudimentaire. Rudimentaire, mais redoutablement efficace dans l'hémisphère nord. Oui, l'étoile du nord disparaît dans l'hémisphère sud. Mais peu importe, puisqu'il s'agit ici de traverser l'Atlantique Nord. Le reste se fera à la boussole, en tenant compte de la déviation, donc des vents, de l'erreur de compas, donc des champs magnétiques créés par les appareils qui entourent la boussole, comme le moteur et son système électrique. Mais ce n'est pas tout. Le champ magnétique terrestre est lui aussi source d'erreur pour le compas. C'est ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. Et quand ils vont se rapprocher du pôle Nord, cette erreur va augmenter et elle peut être colossale. Elle peut donc les détourner de leur objectif. Raison pour laquelle Colly va utiliser la nuit un bon vieux sextant. Il a travaillé tout l'hiver 1926-1927 sur les dernières évolutions météorologiques, prévoyant un départ au mois de mai. Les deux merveilleux fous volants attendaient le bon moment. Mais qu'est-ce qu'un bon moment pour une traversée transatlantique ? Comment savoir quand on est prêt pour le grand départ. Alors aujourd'hui, nous sommes bardés de technologies, de GPS. Nous pouvons connaître en temps réel les prévisions météorologiques, les vitesses du vent, sa direction, la base des nuages, où et quand il y a du givre en altitude. On n'en a pas encore parlé du givre. Un ennemi encore peu connu au début de l'histoire de l'aviation. Pourtant, c'est un ennemi redoutable pour le pilote et pour l'avion. Même si cet avion pèse près de 5 tonnes au décollage et qu'il cache sous son capot un magnifique 12 cylindres de 450 chevaux. Imaginez-vous, l'air se refroidit en moyenne de 2,5 degrés tous les 1000 pieds, 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Nos aventuriers décolleront de Paris en avril ou en mai. Rien n'est encore décidé pour l'instant. Les températures ne seront probablement pas estivales au départ et moins encore quand ils se rapprocheront du pôle. Allez, tablons sur 10 degrés au sol pour un mois de mai, tôt le matin. Vous décollez et vous grimpez. Grimpez encore. Plus vous volez haut, plus vous volez vite pour une même consommation. Alors vous grimpez encore. À 10 000 pieds, vous volez déjà dans des températures négatives. Vous croisez un nuage, puis deux, puis vous regardez vos ailes et vous voyez de magnifiques reflets de cristaux. Les ailes, avec l'humidité et le froid, sont en train de givrer. Elles accumulent de la glace. Petit à petit, le poids augmente. Et puis cette glace qui s'accumule modifie le profil, donc la forme de l'aile. Cette forme qui permet à l'avion de voler. Conjuguée avec le poids supplémentaire, la situation peut vite devenir catastrophique. La chute est inévitable et bien souvent mortelle. C'est la raison pour laquelle les avions modernes sont équipés de systèmes de dégivrage sophistiqués. C'est précisément pour éviter ces catastrophes. En 1927, le givrage ne préoccupe pas trop les pilotes. Et pour cause, on vole à vue, et donc les passages dans les nuages sont rares. Mais quand on traverse l'Atlantique et que la météo se referme, le piège peut s'avérer terriblement dangereux. Et il faut donc éviter les températures trop basses. Ce matin du 7 mai, Colly appelle Ningesser.
Ningesser, je pense que le jour J approche, et il approche tellement bien que je pense que nous allons pouvoir décoller demain à l'aube.
Et Ningesser de répondre. Ok, Colly, mais qu'est-ce qui vous fait dire que demain sera le bon jour?
Je suis dans les bureaux parisiens de l'Office national météorologique. Venez me rejoindre, je vous expliquerai. Venez vite.
Ningesser monte dans sa Rolls-Royce, fonce vers l'institution. Incroyable. Ce jour qu'ils attendent depuis si longtemps, ce jour va enfin arriver. Pendant le trajet, Ningesser repense à toutes les checklists qu'il connaît pratiquement par cœur. Se remémore les gestes à poser pour un décollage en toute sécurité. Il fonce et suit la route machinalement. Il est déjà quelques milliers de pieds plus haut, au-dessus de la Terre, au-dessus des nuages et de l'Atlantique. Il arrive, descend de sa magnifique voiture qu'il ne regarde même pas aujourd'hui. Pourtant, Rolls-Royce sera un acteur majeur plus tard dans l'histoire de l'aviation comme motoriste. Mais ça, c'est une autre histoire. Colly est là, en compagnie des meilleurs experts météo. Les deux hommes passent leur journée à plancher sur les cartes maritimes, les éphémérides nautiques et les études des vents, surtout des vents. Le dieu Éole peut décider de la réussite ou de l'échec de leur aventure. Souffler vers les États-Unis ou vers l'Europe. Si c'est vers l'Europe, ce sera l'échec. Mais pour l'instant, tous les modèles météo s'accordent à dire que demain, le 8 mai, l'air sera exceptionnellement portant durant le premier tiers du parcours. Le problème, c'est qu'une dépression est ensuite annoncée aux abords de Terre-Neuve. Mais tout de même, de telles prévisions dans ce sens-là, ça n'arrive quasi jamais. C'est un signe. Ningesser, on décolle demain ou jamais, dit Colly. « Alors ce sera demain !» répond Ningesser avant de replonger dans ses préparatifs. Colly étudie encore les cartes, le vent et propose une chose étonnante. « Ningesser, la météo sera tellement favorable demain que je vous propose de décoller avec 200 litres de carburant en moins. Qu'en pensez-vous ? » « Ah, je pense que tout est une folie dans cette aventure !» répond Ningesser. « Alors pourquoi pas ? Si vous êtes sûr de vos calculs, ça me permettra peut-être de décoller avant la fin de la piste. Enfin, j'espère. Parce qu'un décollage, ça ne s'improvise pas. Il faut tenir compte de la pression atmosphérique, de la hauteur de l'herbe pour les pistes qui en sont pourvues et de la température. Non, ça ne s'improvise pas du tout. Alors Colly replonge la tête dans ses calculs. La piste mesure 900 mètres. Ça peut paraître beaucoup, mais pour un avion d'un peu moins de 5 tonnes, ça n'est vraiment pas énorme. Vraiment pas. Il ne veut même pas imaginer un décollage raté avec un avion gavé de carburant. De plus, les biplans avec leurs 2x2 ailes ont une traînée importante et cette traînée, elle freine l'avion. Et donc ces ailes rallongent encore le temps de décollage. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus aujourd'hui que des monoplans. Il faut espérer qu'au petit matin demain, il fera frais, pense Nungesser. Et pourquoi ? Parce qu'au petit matin, tous les phénomènes météorologiques se sont calmés pendant la nuit. Mais ce n'est pas tout. Les heures les plus froides de la journée sont obtenues plus ou moins une heure après le lever du soleil. Et qui dit air froid ? Dit air plus porteur. L'avion pourra donc décoller plus vite. Un air froid contient aussi plus d'oxygène et donc rend le moteur plus puissant. Et puis un air froid refroidit aussi mieux l'engin, tout simplement. C'est pour toutes ces raisons que Colly et Nungesser vont décoller tôt, très tôt, ce matin du 8 mai 1927. La météo s'annonce donc exceptionnelle durant le premier tiers du parcours, et la contrepartie, c'est que cette foutue dépression est toujours annoncée aux abords de Terre-Neuve. Bon, de toute façon, il faut y aller avant qu'un Américain ne le fasse à leur place. Bien sûr, il y a un risque, énorme même, mais le goût du risque, eh bien, ils l'ont tous les deux. Ils adorent ça. Ils sont passés tellement de fois à côté de la mort qu'ils en sont persuadés aujourd'hui. Elle ne veut pas d'eux. Alors en route pour l'inconnu.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, dans l'heure H, je vous raconte la tentative insensée de deux aviateurs hors pair. Être les premiers à réaliser la traversée Paris-New York. Voilà des mois qu'ils y travaillent. Réalisent des tests et préparent leur avion, l'Oiseau Blanc. Nous sommes le 8 mai 1927 et le moment de décoller semble bien être arrivé. Le 8 mai 1927, c'est un dimanche. L'Oiseau Blanc est rapatrié dans le hangar du 34e régiment d'aviation du Bourget où les deux hommes ont à présent installé leur QG. Et puis tant qu'à faire, pas d'hôtel de luxe pour leur dernière nuit sur Terre, non. Ils vont installer deux lits de camp dans le hangar à côté de l'avion. Ils vont y passer la nuit et terminer les derniers préparatifs, peaufiner les derniers détails, mais pas que. Vu les enjeux, il vaut mieux éviter les risques de sabotage, voire d'incendie. On n'est jamais trop prudent. Qui sait de quoi les Américains sont capables pour être les premiers ? Cette nuit-là va être courte pour nos deux aventuriers. Comment trouver le sommeil à la veille d'un tel périple ? Tard dans la nuit, Colly termine enfin tous ses calculs et... problème, le poids du carburant ne devrait pas dépasser les 2800 litres. Et vous le savez, on le sait, ils vont emporter 1000 litres de plus. Ça n'est pas rien, 1000 litres. Ça change beaucoup de choses. La première inconnue pour nos deux compères sera donc commune à tous les autres pilotes qui tentent de grandes traversées à l'époque. Pourront-ils décoller avant la fin de la piste ? D'autres avant eux y ont laissé leur vie. Mais Nungesser reste confiant. Malgré tout, le reste de la nuit sera consacré à l'allègement maximal de l'appareil. Alors il n'embarque ni canot pneumatique, ni radio. Juste les vivres nécessaires et un peu de matériel de pêche. Au cas où, on n'est jamais trop prudent. Ce matin du 8 mai 1927, sur les coups de 3h du matin, on sort la bête du hangar. L'Oiseau Blanc doit faire son petit échauffement. Et puis, les techniciens de chez Lorraine font une ultime révision mécanique. Oui, tout va bien. Le moteur tourne comme une horloge. Un peu plus tard, l'équipage émerge à son tour. Avant leur envolée, les deux pilotes se sont offerts un petit extra. Chacun reçoit un massage de mains expertes. Un peu de paradis, avant de plonger en enfer. Un dernier café, les deux hommes se regardent. Ils sont à la fois excités et terrifiés par ce qui les attend. Ils se sourient, mais déjà, ils ne se parlent plus. Ils n'en ont plus besoin. Depuis tout ce temps qu'ils peaufinent cette traversée, ils ont appris à se connaître sur le bout des doigts. Ils se comprennent d'un seul regard. Ils sont dans leurs pensées et parfaitement concentrés à l'image de ces astronautes qui partiront pour la Lune bien des années plus tard. Nungesser et Colly enfilent leur combinaison de cuir doublée de soie, revêtent leur bonnet. Dehors, il fait assez frais, 15 degrés. Pas de chance. Colly avait basé ses distances de décollage sur 10 degrés. Tant pis, il faudra s'en accommoder. L'ingénieur ronchonne. Colly, 5 degrés de différence, ça fait pas mal de mètres en plus au décollage. Mais leur conversation est stoppée net. Au loin, des éclairs zèbrent l'horizon. Ça n'était pas tout à fait prévu, ça non plus. Pas très engageant comme décor. D'autant que les nuages d'orage, on ne passe pas dedans, on les contourne. Et ça rajoute des kilomètres au périple. Ce sont les nuages les plus redoutés par les pilotes aujourd'hui encore. Les fameux cumulonimbus. À l'intérieur de ceux-ci, des vents cisaillants qui peuvent atteindre les 150 km par heure. Et puis des turbulences terribles et de la glace qui peut détruire un avion en quelques secondes. C'est la raison pour laquelle les avions de ligne de nos jours sont équipés de radars météo pour éviter les fameux CB ou cumulonimbus. Mais ce matin, impossible de reporter le départ. Au-delà de cette ligne d'orage, les conditions sont annoncées comme parfaites. Et puis les deux hommes ne sont pas seuls. Non, bien loin de là. On l'a dit, leurs préparatifs sont suivis pas à pas par une horde de journalistes. Alors, eh bien, l'un ou l'autre technicien de l'équipe s'est laissé à quelques confidences. Et l'imminence de leur départ a fuité. Si bien qu'environ 300 personnes sont venues les accompagner ce petit matin du 8 mai 1927. Et ça n'est pas n'importe qui. C'est du beau monde. Parmi les personnalités présentes sur place, on reconnaît, écoutez bien, Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Édouard Daladier ou encore Georges Carpentier. Rien que ça. Cette traversée est devenue, en plus d'un événement historique, un événement mondain. La pression est énorme sur les épaules de nos deux aviateurs, mais vous le savez, ils aiment ça. Ce sont eux aujourd'hui, les superstars. Alors ils se délectent de ce moment. L'avion est traîné en bout de piste où les aventuriers sont conduits, juchés sur un torpedo et accompagnés par une aide d'honneur militaire. Il est 5 heures, Paris s'éveille, mais surtout le tout Paris retient son souffle. Ningesser et Colly se hissent dans la carlingue. Colly lève la tête vers le ciel comme pour dire « j'arrive ». Tous deux ont le sourire aux lèvres. Ils semblent presque détendus. Les deux aviateurs, dans leur combinaison, s'installent à leur place. Le premier à gauche, le second à sa droite, légèrement en retrait. Une dernière clope. Oui, vous avez bien entendu, ils sont entourés de milliers de litres d'essence, mais on s'en grille une dernière avant le décollage. Les règles de sécurité ont bien évolué depuis. Et puis, une dernière photo, un dernier mot. « Ça va passer », conclut Ningesser. Colly se sent rassuré. On démarre le moteur de l'avion. On lui retire ses cales, on l'inspecte encore une dernière fois sous l'œil des commissaires venus attester officiellement de cette tentative de record du monde. Puis l'oiseau blanc se met en branle doucement. Il s'engage vers cette taupinière bosselée qui fait office de piste de décollage. Le décollage, c'est la phase la plus critique de la traversée, notamment à cause du poids. Pour ne pas faire comme ceux qui l'ont payé de leur vie, Ningesser et Colly n'ont pas voulu tester un décollage en configuration réservoir plein avant le jour J. Parce qu'ils se sont dit, quitte à prendre un tel risque, autant ne le prendre qu'une seule fois. Et Ningesser l'a dit, ça devrait passer. Malgré tout, on a posté une ambulance et une voiture de pompiers en bout de piste. Et ne nous voilons pas la face, en cas de souci au décollage, les pompiers auront fort à faire avec tout le carburant embarqué, les ambulanciers beaucoup moins. La visibilité devant l'avion est quasi nulle. Ningesser louvoie petit à petit jusqu'au seuil de piste, ou plutôt au début de la prairie. Oui, car en ce début de siècle, on n'imagine pas encore les pistes de décollage. Il s'agit toujours de champs d'aviation. Et l'avion se met toujours dans l'axe du vent, face à lui, pour décoller. Ningesser pousse la manette des gaz. Pas trop vite au début, parce que l'avion pourrait partir en toupie avec ses 450 chevaux. Il la pousse encore, mais à fond cette fois, puisqu'il sent que la gouverne de direction est assez soufflée que pour être efficace. Le moteur gronde, l'avion rebondit quelques fois sur l'herbe. 50, 60, 70 nœuds, l'engin de bois et de toile rebondit encore. La structure vibre, la fin de la piste se rapproche, 71... 72 nœuds, nage serre concentré, tire doucement sur le manche. Se bat avec les pieds pour conserver l'avion dans l'axe et enfin, petit à petit, les roues quittent le sol. Il prend de la vitesse et rejoint son élément. Ensuite, après avoir atteint une altitude de sécurité, on laisse tomber le train d'atterrissage au sol. Tout simplement. Pour gagner un peu de vitesse, limiter encore la traînée, mais aussi pour gagner du poids. 123 kilos, ce train d'atterrissage, ça n'est pas rien. Cette pièce de l'oiseau blanc est exposée au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et puis, une fois là-bas, Ningesser, on le sait, amerrira près de la Statue de la Liberté, puisque l'avion le permet. Alors on ne s'encombre pas. Pour l'équipage, le fait d'avoir largué le train, c'est déjà le point de non-retour. Plusieurs autres appareils décollent au même moment, avec à leur bord journalistes, photographes, caméramans. On veut immortaliser l'instant. Cette traversée sera historique et elle sera un succès. Il est 5h18 et l'oiseau blanc part à la conquête de l'Amérique à près de 200 km par heure et à basse altitude au début du périple, moins de 600 pieds, 200 mètres. Il prend définitivement son envol au-dessus du Grand Large à 6h48. Sous-entend laiteux. Le lendemain après-midi, heure de New York, une foule importante s'est massée aux abords de l'endroit où est prévu l'amérissage. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que les Frenchies vont réussir. Ils auraient été aperçus aux environs de Terre-Neuve, puis près des côtes américaines. Le journal La Presse annonce sur 7 colonnes à la une que Ningesser et Colly ont réussi, se payant même le luxe d'annoncer l'heure précise d'arrivée. Pour le journal, ils ont améri à 17h, le tout agrémenté d'un article qui raconte, dans le détail, l'accueil triomphal réservé aux héros. Les aviateurs n'arriveront jamais à destination, et les locaux du journal seront saccagés le lendemain. L'oiseau blanc avait une autonomie prévue pour une 40aine d'heures. Passé ce délai, l'horrible présage devient inéluctable. Il s'est perdu en vol. Mais qu'est-il donc arrivé à nos deux aviateurs? Toutes les hypothèses circulent, de la plus sérieuse à la plus farfelue. Ils ont disparu, à jamais. Mais une chose est sûre, à défaut d'avoir marqué l'histoire de l'aviation, ils auront marqué toute une époque. Quelques jours plus tard, Charles Lindbergh réussira l'impossible. Et sa première question à la descente de son avion sera « A-t-on des nouvelles de Ningesser et Colly ?» Aujourd'hui encore, aucune trace de l'oiseau blanc n'a été retrouvée. Il s'agit donc d'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation.